Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour, voici les titres. Moins de 1600 personnes hospitalisées à cause du Covid malgré des contaminations toujours en hausse en Tchéquie. Une inflation à 8,5% en taux annuel, ce sont les estimations du ministère tchèque des Finances. Et puis du sport avec la qualification de Krejčíková pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, c'est du tennis. Le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés reste à des niveaux élevés, avec plus de 26 000 cas détectés jeudi et plus de 30 000 en comptant les réinfections suspectées, soit quelque 15 000 de plus que le même jour la semaine dernière. Mais le nombre de personnes hospitalisées reste relativement faible, avec moins de 1 600 patients Covid répertoriés par le ministère tchèque de la Santé. Près de 135 000 tests ont été effectués jeudi, soit environ 42 000 de plus qu'il y a une semaine. Le taux d'incidence sur 7 jours s'élève désormais à 1228 nouveaux cas pour 100 000 habitants, un niveau presque record selon les données du ministère. Le ministère tchèque des Finances s'attend à ce que le taux annuel d'inflation atteigne 8,5% contre 6,1% prévu en novembre. Dans le même temps, le ministère a abaissé son estimation de la croissance économique cette année à 3,1% contre 4,1% en novembre. C'était avant les élections législatives qui ont provoqué un changement à la tête du gouvernement et à la tête du ministère. Le Sénat, par ailleurs, a approuvé l'extension des allocations de logement pour plus de personnes qu'auparavant en raison de la flambée des coûts de l'énergie. Et ce même Sénat a autorisé le cabinet à agir davantage cette année si les prix de l'électricité et du gaz continuent à augmenter. Les juges et les procureurs déposeront une plainte contre un gel des salaires d'un an imposé par le gouvernement pour les fonctionnaires, y compris les politiciens, les juges, les procureurs et le président. Le chef du syndicat de la magistrature, Libor Vavra, a fait valoir que cette mesure violait l'ordre constitutionnel et a exprimé sa déception face au fait que le Sénat avait décidé de ne pas s'y opposer. Le président de la République, Miloš Zeman, a d'ores et déjà indiqué qu'il signerait ce projet de loi. Un mot de photographie pour vous dire que c'est une photo de la tornade en Moravie qui a remporté la prestigieuse compétition nationale Tchèque Presse Photo cette année. Et c'est le photographe Peter Topic qui a remporté la compétition avec une photo qui représente un homme devant une maison effondrée. Et il y avait plus de 4000 clichés envoyés par 250 photographes de toute la République tchèque et de la Slovaquie pour cette compétition présidée par un jury international, l'exposition Tchèque Presse Photo 2021 dans les diverses catégories est à voir à partir de ce vendredi au Musée National. Pour plus d'infos, c'est sur notre site français.radio.cz. Un mot sur la météo avant de passer au sport, de la météo qui s'annonce encore avec de la neige prévue samedi matin à Prague et des températures de moins 2 dans la nuit et de 2 degrés maximum en journée dans la capitale tchèque. Du sport avec, je vous le disais en titre, du tennis et Markéta Vondroušová qui affrontera samedi la Biélorusse Arina Sabalenka, numéro 2 mondial actuellement, pour une place en 8e de finale. La médaille d'argent olympique Markéta Vondroušová est la seule tchèque encore en lice en simple avec Barbora Krejčíková qui est elle déjà qualifiée pour un 8e de finale qu'elle disputera contre une autre Biélorusse, Victoria Azarenka. Barbora Krejčíková a dû batailler jeudi contre la Lettonne Ostapenko pour finalement s'imposer en 3-7. C'est le rêve de tous de jouer sur ce formidable court Rod Laver et je ne serai pas parti sans me battre, a déclaré la Tchèque, qui est également toujours en lice en double avec sa compatriote Kateřina Siniaková. C'était le bulletin d'information. Pour plus d'infos en tchèque, en français sur l'actualité tchèque, pardon, c'est sur notre site, sur notre compte Twitter, @radioprague.fr, et la suite du programme en français avec Anaïs Rimbaud, c'est juste après ça.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, rebonjour. Vous êtes toujours sur Radio Prague International à l'écoute du programme en français. Au sommaire aujourd'hui, tout d'abord, la traditionnelle revue de la presse tchèque hebdomadaire préparée par Alena Gebertová. Ensuite, nous vous proposons d'écouter la seconde partie de l'entretien avec le diplomate français d'origine tchèque David Zvar, un entretien réalisé par Alexis Rosenzweig. Très bonne écoute. Quelle importance les Tchèques attribuent-ils à leur identité nationale ? Cette nouvelle revue de la presse apporte un élément de réponse, tout en se penchant également sur le vieillissement de la population tchèque et sur une possible crise démographique. Les perspectives d'adoption de l'euro par la Tchéquie, qui a adhéré à l'Union européenne il y a 18 ans de cela, est un des autres sujets traités. Le magazine s'intéresse également aux relations entre les Tchèques et les Allemands. Enfin, une petite remarque concernant les hivers tchèques qui ne sont plus ce qu'ils étaient.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Les quelques 670 000 Tchèques, où ont-ils disparu ? S'interroge l'auteur d'un texte qui a été publié dans une récente édition du quotidien Deník N, en rapport avec le recensement de la population effectué l'année dernière.
Les premiers résultats publiés début janvier par l'Office tchèque des statistiques ont passé presque inaperçus. Ils ont pourtant révélé un constat intéressant, une perte considérable du nombre de personnes qui se réfèrent explicitement à leur identité tchèque. Celle-ci ne représente à l'heure actuelle que près de 6 millions sur 10 millions et demi d'habitants de la République tchèque, soit le chiffre le plus bas depuis la naissance de la Tchécoslovaquie en 1918.
Difficile de trouver, selon le journaliste, une explication univoque à cette évolution. On ne saurait par exemple prétendre que des ressortissants étrangers ou des personnes d'autres nationalités prévalent sur la population tchèque, car leur effectif n'augmente que modérément. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher une réponse à ce que la volonté des Tchèques de définir leur identité nationale et leur ethnicité diminue.
Les données qui ressortent du recensement font preuve de l'indifférence d'une partie de la population tchèque eu égard à son identité nationale. D'un autre côté, elles confirment qu'il y a de plus en plus de gens qui perçoivent leur identité comme un élément à facettes multiples et qui décèlent différentes possibilités. Pour ceux qui refusent de se déclarer comme des Tchèques pur sang, entre guillemets, l'identité nationale semble représenter une carapace imposée par l'État. À leurs yeux, les identités peuvent se transformer au fil des situations différentes.
Le site actoigne.cz retient un autre point qui ressort de ce dernier recensement de la population et qui concerne l'évolution démographique en Tchéquie. Il écrit:
le vieillissement de la population fait fréquemment l'objet de débats politiques télévisés, tandis que des démarches pertinentes en la matière font jusqu'ici défaut. La situation devient pourtant grave, tandis que le précédent recensement effectué il y a 10 ans a enregistré 1,6 million de personnes de plus de 65 ans. Le dernier en compte 500 000 de plus. Suivant cette évolution, elles seront 3 millions en 2050.
Face à ce problème brûlant, le nouveau gouvernement a été contraint à prôner une réforme des retraites qui coûtera cher et qui sera douloureuse. Il reste cependant muet sur un autre aspect important, le recul de l'âge de départ à la retraite, souligne le commentateur du site actoigne.cz, selon lequel aucune autre solution n'existe.
On pourrait rapidement frôler une crise démographique, il n'y a que l'accueil de ressortissants étrangers qui pourra l'amoindrir.
La Tchéquie devrait enfin adopter l'euro, car durant les 20 années d'existence, la monnaie européenne a fait preuve de ce qu'elle fonctionnait bien. C'est ce que prétend l'auteur d'une note publiée dans le journal en ligne Forum 24, qui saisit l'occasion pour rappeler.
À ce jour, la Tchéquie n'a pas rejoint la zone euro, bien qu'elle se soit engagée en faveur de cette démarche lors de son entrée dans l'Union européenne en 2004. Elle s'est alors faite devancer par la Slovaquie, ancienne partie de la Fédération tchécoslovaque autodissoute en 1993. Durant les 20 années écoulées, l'euro a eu à affronter toutes sortes de crises, dont notamment celles liées à la Grèce, et qui ont ouvert la voie aux prévisions sombres de politiciens et d'économistes tchèques, partisans de concepts nationalistes. Toutefois, celles-ci se sont avérées fausses. L'euro est désormais considéré comme un projet réussi qui, avant la pandémie de Covid-19, a contribué à la croissance économique européenne.
Les avis d'économistes tchèques sur la date et sur ce que l'entrée de la Tchéquie dans la zone euro lui apporterait continuent de différer. Néanmoins, comme l'indique le publiciste de Forum 24, la monnaie européenne ne fait plus l'objet de lourdes critiques dans le pays. Il s'agit d'une question majoritairement politique, ajoute-t-il.
L'euro pourrait contribuer à ce que le pays fasse un pas vers l'approfondissement de son appartenance européenne et à ce qu'il se débarrasse de son empreinte nationaliste. Hélas, vu les grands problèmes que le nouveau gouvernement aura à affronter, il semble que l'adoption n'est pas une question d'actualité, mais d'avenir.
Les relations entre les Tchèques et les Allemands des deux côtés de la frontière se limitent habituellement au domaine professionnel ou au tourisme dit d'achat. Les liens individuels et les amitiés sont assez rares. C'est ce que révèle l'enquête qui a été effectuée dans les deux pays en rappel de la signature de la déclaration tchéco-allemande, depuis laquelle 25 ans se sont écoulés à la date du 21 janvier. À ce propos, le site hlidatipes.org a ajouté.
Les gens des régions limitrophes ont beaucoup d'intérêts communs, mais ils ne les partagent que rarement avec leurs voisins à cause de la barrière de la langue et faute d'informations nécessaires. Dans des situations de crise, les contacts mutuels, qui ont un caractère superficiel, ont tendance à s'affaiblir, ce que l'épidémie de Covid-19 a assez clairement confirmé. Celle-ci a même fait renaître certains stéréotypes que l'on aurait pu prendre depuis longtemps pour révolus. Par ailleurs, s'agissant de la fermeture des frontières entre les deux pays pendant l'épidémie, les Tchèques, contrairement aux habitants allemands, l'ont majoritairement salué.
Le site hlidatipes.org fait également part de certaines différences qui marquent aujourd'hui les Tchèques et les Allemands. Les premiers craignent en premier lieu la détérioration de la situation économique, considérant la croissance et l'endettement comme les principaux défis à relever. Leurs voisins allemands, quant à eux, mettent l'accent, outre des sujets d'ordre économique et social, sur la protection du climat, explique-t-il. Les hivers tchèques sont devenus trop chauds, rapporte un texte publié dans le quotidien Deník. Son auteur explique.
Depuis quelques années déjà, et notamment à partir du début de la dernière décennie, on voit fortement diminuer le nombre de jours durant lesquels les températures descendent en dessous de zéro. Tandis que dans les années 1960, par exemple, les météorologues ont pu enregistrer 127 jours par an. Durant les 10 dernières années, il n'y en a eu qu'une centaine. La même tendance concerne les journées glaciales, celles où les températures se maintiennent à ce niveau bas pendant 24 heures.
De l'avis d'experts en climatologie, la situation ne va guère changer à l'avenir. Selon un scénario qui prévoit une régulation des émissions carbone, la Tchéquie pourra s'attendre, d'ici l'an 2100, à seulement quelques 77 journées accompagnées de fortes gelées par an, ajoute le journaliste de Deník. Évidemment, il existe également des scénarios encore plus sombres. Le diplomate français David Tsvar est le directeur de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Fils de l'artiste tchèque Miloš Tsvar, il est l'un des responsables à Paris de l'actuelle présidence française de l'Union européenne, à laquelle succédera en juillet la présidence tchèque. Seconde partie aujourd'hui de l'entretien avec David Tsvar, réalisé par Alexis Rosenzweig.
La diplomatie tchèque se félicitait récemment du soutien de la France à l'intégration des Balkans occidentaux et considéré un peu comme une victoire de la diplomatie tchèque. Est-ce que c'est réellement le cas?
Donc vous avez vu qu'en effet, le président, le 9 décembre, il a annoncé qu'on aurait une conférence.
Le président français Emmanuel Macron.
Oui, une conférence sur les Balkans occidentaux au mois de juin. Et je pense que c'est juste de dire qu'on a beaucoup parlé de ce sujet avec la République tchèque. Je dois dire aussi avec la précédente présidence slovène. Dans le cadre de la discussion sur le trio, c'était un point, sans surprise, très important pour nos amis tchèques, qui d'ailleurs prévoient d'organiser sous leur présidence un véritable sommet. UE-Balkans, comme nous avons le sommet UE-Afrique, UE-UA, le grand sommet de la présidence tchèque sera le sommet UE-Balkans. Et j'ajoute que c'est aussi un sujet important pour les Suédois, traditionnellement. Et donc, si vous ajoutez à ça le fait qu'il y a quand même plusieurs dynamiques, pour parler diplomatiquement, préoccupantes dans les Balkans occidentaux, le président a décidé qu'on allait jouer tout notre rôle dans cette chaîne de présidence pour peser davantage sur ces développements. Alors, il y a le sujet de l'élargissement et la vocation évidente de ces pays à rejoindre l'Europe, et je comprends bien que c'est en soi un levier de transformation. Mais vous avez aussi, et vous savez que ça c'est une position française classique, le fait que on ne peut pas et on ne doit pas résumer nos relations avec ces pays à la seule problématique de l'élargissement. D'ailleurs, vous avez une situation particulièrement préoccupante en Bosnie-Herzégovine, pour qui l'élargissement n'est pas un horizon de court terme, en tout cas, on va dire, par rapport à d'autres pays des Balkans occidentaux. Et donc, c'est aussi important que on discute avec eux, qu'on fasse pression si nécessaire, qu'on réfléchisse aux différents leviers qu'on peut avoir pour peser davantage sur ces pays et résister aussi à l'agenda d'autres puissances qui sont actives dans ces pays, et pas forcément d'une manière compatible avec nos intérêts. Donc, c'est un peu tout ça, ce dont on veut discuter à cette conférence qu'on organisera au deuxième trimestre.
Dans ce contexte que vous venez d'évoquer, cette question va peut-être être éclipsée par la situation également très préoccupante en Ukraine. Est-ce que là, Prague et Paris sont sur la même longueur d'onde?
Je crois que vous avez une assez forte unité européenne, en réalité, sur cette question. Je vois beaucoup d'articles qui disent « l'Europe n'est nulle part ». En fait, je suis pas convaincu. On est si vous regardez, il y a une séquence diplomatique très intense la semaine dernière à l'OSCE, à l'OTAN, à l'Union européenne avec le Gymnich. L'Europe, en réalité, était partout. Et les leviers sont quand même beaucoup en Europe. Parce que vous avez si on cherche des moyens de dissuader une action militaire russe en Ukraine, vous vous posez la question du type de sanctions qui pourraient produire ça. Or, nous avons plus de poids en réalité dans ce domaine-là que les Américains. Donc, on est assez centraux. On n'est pas une puissance militaire en tant que telle, l'Union européenne. Donc, évidemment, sur cet aspect-là de la discussion, l'Union européenne en tant que telle n'a pas beaucoup à apporter, mais sur la question clé des sanctions, et on a dit qu'on préparait, et ça on y travaille très étroitement, des mesures massives en cas de nouvelles violations de la souveraineté ukrainienne par la Russie. Là, je dirais, il y a une assez forte il y a même une très forte unité de vue européenne. C'est un petit peu si je reviens un peu au début de notre conversation, on sous-estime souvent, vis-à-vis de l'Union européenne, parfois on la sous-estime, parfois on la surestime. Et en fait, il faut voir de quoi on parle. Si vous parlez des sujets qui sont liés d'une manière ou d'une autre à notre marché unique, en fait, nous sommes forts, et même très forts. Et c'est pour ça que ce que l'Union européenne peut faire en matière commerciale, en matière de régulation, en matière de sanctions, c'est fort. Et c'est ça qu'on peut mettre sur la table dans cette affaire ukrainienne. Si vous regardez le volet sécurité et défense, on est plus dans un domaine où il s'agit de coordination, où l'Europe a des choses à apporter pour faciliter, favoriser, renforcer cette coordination. Mais ça, c'est un processus qu'on espère d'ailleurs fortement accélérer sous présidence française avec l'adoption de ce document qui s'appelle la boussole stratégique fin mars. Mais vous voyez, il y a deux registres différents. Il y en a un où nous sommes déjà une puissance, il y en a un autre où nous espérons le devenir progressivement. Mais pour ça, il faut construire un plan crédible, basé sur une analyse commune des menaces. Et là, je pense que progressivement, nous nous rapprochons les uns des autres. Je pense que si vous demandiez à la République tchèque, il y a 5 ans, son analyse des menaces, et aujourd'hui, et à nous, je pense qu'on se retrouverait beaucoup plus sur un paysage assez comparable. Hein. Je fais une petite parenthèse pour dire que l'Afrique, c'était un sujet qui, il n'y a pas si longtemps, n'intéressait à peu près que la France. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais ensuite, à partir de cette analyse des menaces, il faut qu'on s'entende ensemble sur la manière dont on peut devenir progressivement plus fort, développer des capacités en complémentarité avec l'OTAN, mais aussi des capacités d'action seules si jamais la voie de l'OTAN ne fonctionne pas.
David Tsvar, je vais vous demander, même si je sais que vous êtes diplomate, qu'est-ce qui coince le plus entre Prague et Paris en ce moment? C'est cette question des émissions à propos du Green Deal, c'est quelque chose d'autre, là où ça paraît le plus difficile d'avoir une même ligne?
Je peux pas vraiment vous dire parce que là, il va falloir voir avec le nouveau gouvernement tchèque. Et malheureusement, dans la manière dont vous avez formulé la question, je suis condamné à apparaître diplomate si je vous dis que nous avons un alignement assez intéressant avec la République
tchèque. Très diplomate.
Non, mais c'est malheureusement ou heureusement d'ailleurs plutôt. Parfois, les diplomates disent la vérité. D'ailleurs, je pense qu'on dit toujours la vérité, sinon on a des problèmes. Si vous regardez sur la question de la transition écologique, on a un énorme paquet avec 13 textes en négociation. Et évidemment que sur certains éléments de ce paquet, on aura des différences, mais il y en aura entre tous les États membres. C'est bien pour ça que c'est intéressant de négocier en paquet, parce que ça permet d'avoir des arbitrages. Sur une question qui était clé pour nous et qui le reste, qui est pas dans le paquet, mais qui influe beaucoup sur lui, qui est la reconnaissance du nucléaire comme une énergie dans laquelle il est légitime d'investir au titre de c'est ce mot barbare, vous savez, de taxonomie, de classification des investissements hein, que l'Union européenne prépare. Sur ce sujet qui est un sujet majeur, on a été et on est toujours très très alignés avec nos amis tchèques. Sur un autre sujet complètement différent, très important, qui est celui de du développement de l'Europe de la défense, on a aussi beaucoup travaillé avec la République tchèque et son choix de rejoindre, vous savez, cette task force au Sahel Takuba. Qui s'appelle Takuba, c'est quelque chose de considérable pour nous. Il y a un chantier sur lequel j'espère qu'on va pouvoir travailler plus. C'est celui de ce que le président appelle l'appartenance. Et sans vouloir être trop long sur ce sujet, vous connaissez le slogan de notre présidence, relance, puissance, appartenance. On a, je crois, assez fort le sentiment en France que dans toute cette crise, de la pandémie et tout ce qu'elle a charrié, on vit un moment de basculement qui nécessite de nous interroger nous-mêmes en tant qu'Européens, non seulement sur les meilleurs moyens de relancer l'économie, de le faire d'une manière qui serve la transition numérique, la transition digitale, etc., mais qu'est-ce qui constitue notre projet en fait? Pourquoi est-ce que tout ça est beaucoup plus depuis l'origine qu'un projet de libre-échange. C'était qu'un projet de libre-échange, on avait l'Association européenne de libre-échange jadis, et ça nous aurait suffi. C'est plus que ça. C'est un projet dans lequel chacun, comme je disais au début, projette une part de soi-même. Chacun s'y retrouve parce que quand vous faites le bilan, en fait, vous avez plus de pouvoir en étant dans ce club qu'en étant en dehors. Je pense qu'on a un pays qui est en train de faire la démonstration inverse, en un sens, en en sortant. Mais vous devez aussi vous interroger sur qu'est-ce qui fait notre spécificité, la spécificité de notre modèle, qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres. Et là, on a eu historiquement des contributions tchèques extraordinaires à cette réflexion. De Patočka à Havel. Et je pense qu'il y a un grand appétit, en fait, en Europe pour entendre de nouveau, plus fortement peut-être, un message tchèque sur la vision tchèque de l'Europe, mais aussi un projet qu'elle peut proposer aux Européens, comme l'ont fait jadis beaucoup de grands intellectuels tchèques.
David Svar. David Svar, une question un peu plus personnelle pour finir. Est-ce que ambassadeur à Prague pour le diplomate français, fils de Tchèque que vous êtes, c'est une perspective qui peut vous plaire?
Je vais sortir mon joker sur cette question-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que la première ambassade dans laquelle j'ai mis les pieds, tout enfant, c'était le palais Buquois à Malastrana à l'occasion d'un 14 juillet, donc ça a probablement joué dans ma vocation.
Merci beaucoup à vous et bon courage pour cette présidence française de l'Union européenne. À bientôt à Prague.
Merci beaucoup. Děkuji moc. Moc mě těšilo.
Taky. Nashledanou.
C'est la fin de notre programme en français. Merci de votre attention et de votre fidélité. Rendez-vous demain pour un programme spécial Yann Palar et je vous invite également à jeter un œil à la galerie de photos préparée à l'occasion des 150 ans de la naissance de l'architecte slovène Jozef Plečník, une galerie de photos qui présente ses réalisations architecturales pragoises. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ahoj !